Pinocchio de Collodi, deuxième cassette, deuxième face, page 86.
Sors l'argent ou tu es mort, dit le plus grand des deux assassins.
Marre, répéta l'autre.
Et après t'avoir tué, le tueras aussi ton père.
Aussi ton père, dit le plus petit.
Non, non, ne tuez pas mon pauvre papa, non, cria Pinocchio d'une voix désespérée.
Mais à crier ainsi, les écus sonnèrent dans sa bouche.
Oh bon dit, tu caches ton or sous ta langue, crache-le vite,
dit le plus grand des deux brigands. Pinocchio tint bon.
Oh, tu fais le sourd. Attends un peu, nous allons bien te le faire cracher.
En effet, l'un des deux saisit Pinocchio par la pointe de son nez et l'autre par le menton, ils commencèrent à le tirer violemment pour le forcer à ouvrir la bouche. Mais ce fut en vain. La bouche de Pinocchio semblait hermétiquement clouée. Alors le plus petit des deux assassins sortit un grand couteau et essaya d'en passer la lame en guise de levier entre les deux lèvres de l'infortuné Pinocchio. Mais celui-ci, rapide comme l'éclair, lui saisit la patte entre ses dents et après l'avoir mordu et coupé net, la cracha à terre. Figurez-vous quel fut alors l'étonnement de Pinocchio quand il s'aperçut qu'au lieu d'une main, c'était une patte de chat qu'il avait crachée. Encouragé par cette première victoire, il se débarrassa à coups d'ongles de ses brigands, franchit la haie et s'élança à travers champs. Les deux brigands se précipitèrent à sa poursuite comme deux chiens de chasse qui courent après un lièvre, et celui qui avait perdu une patte courait en sautant sur une jambe sans qu'on pût savoir comment il s'y prenait. Après avoir parcouru ainsi 15 kilomètres, Pinocchio était épuisé. Alors il se vit perdu et grimpa sur un pin très élevé, puis s'assit au sommet sur la plus haute branche. Les assassins essayèrent de grimper à leur tour, mais arrivés à la moitié du tronc, ils glissèrent et tombèrent par terre en s'écorchant les mains et les pieds. Ils ne se tinrent pourtant pas pour battus. Ayant ramassé au pied de l'arbre un morceau de bois sec, ils y mirent le feu. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le pin s'enflamma et brûla comme une chandelle au souffle du vent. Pinocchio, voyant monter les flammes et ne voulant pas mourir à la façon d'un pigeon rôti, fit un grand saut et décampa à travers les vignes et les champs. Les brigands le poursuivirent, infatigables. Et comme le jour commençait à poindre, Pinocchio se trouva tout à coup arrêté dans sa course par un fossé large et profond, plein d'une eau boueuse de la couleur du café au lait. Que faire ? 1, 2, 3 ! S'écria Pinocchio. Et prenant son élan, il sauta de l'autre côté. Les brigands sautèrent également, mais comme ils n'avaient pas bien calculé, patatras, ils tombèrent au beau milieu du fossé. Pinocchio, qui entendit leur chute et le jaillissement de l'eau, s'écria en riant tout en poursuivant sa route.
« Grand bien vous fasse, messieurs les brigands !»
Il se figurait déjà que les brigands étaient bel et bien noyés, mais en se retournant, il constata que les brigands couraient toujours derrière lui, emmaillotés dans leurs sacs et ruisselant d'eau comme deux paniers défoncés. Chapitre 15. Les brigands poursuivent toujours Pinocchio et après l'avoir rejoint, ils le pendent à la branche d'un grand chêne. Pinocchio perdait courage et fut sur le point de se laisser tomber par terre et de s'avouer vaincu. Cependant, regardant autour de lui, il vit parmi la verdure sombre des arbres apparaître un point clair. C'était une petite maison, blanche comme la neige. Si j'avais seulement assez de souffle pour arriver jusqu'à cette maison, je serais peut-être sauvé, se dit-il à lui-même. Et sans attendre une minute, il se remit à courir par le bois à une allure folle. Les brigands le poursuivaient toujours. Après une course désespérée d'environ 2 heures, Pinocchio arriva enfin, tout essoufflé, à la porte de la petite maison blanche. Il frappa. Personne ne répondit. Il frappa avec violence, car il entendait approcher le bruit des pas et percevait la respiration forte et haletante de ses deux persécuteurs. Même silence. Ayant constaté qu'il ne servait de rien de frapper, il se mit en désespoir de cause à donner des coups de pied et de poing dans la porte. Alors se montra à la fenêtre une belle jeune fille qui avait des cheveux bleus. Son visage était blanc comme de la cire, ses yeux étaient clos et elle avait les mains croisées sur la poitrine. Sans même remuer les lèvres, elle dit avec une toute petite voix qui semblait venir de l'autre monde. « Dans cette maison, il n'y a personne. Tout le monde est mort.
Ouvrez-moi du moins vous, dit Pinocchio en pleurant.
Je suis morte moi-même.
Morte? Mais alors que faites-vous à cette fenêtre?
J'attends le cercueil qui va m'emporter.
Sur ces mots, la jeune fille disparut et sans bruit, la fenêtre se referma.
« Oh, belle jeune fille aux cheveux bleus !» criait Pinocchio. « Ouvrez-moi par charité. Ayez donc pitié d'un pauvre enfant poursuivi par les brigands. »
Il ne put pas finir le mot, car il se sentit saisi par le cou et il entendit des deux vilaines voix lui déclarer menaçantes.
« Maintenant, tu ne nous échapperas plus !»«
Échapperas plus !» Pinocchio, croyant voir la mort devant ses yeux, fut pris d'un si violent tremblement qu'il entendait grincer les jointures de ses jambes de bois et résonner les 4 écus qu'il tenait toujours cachés sous sa langue.
« Donc, lui demandèrent les brigands, veux-tu ouvrir la bouche ?» Oui ou non? Oui ou non? Ah, tu ne réponds pas. Patience, nous te la ferons bien ouvrir cette fois. Cette fois.
Et ils sortirent 2 mauvais coutelas, longs et effilés comme des rasoirs, puis ils les lui plantèrent au milieu du dos. Mais le pantin était fait par bonheur d'un bois très dur, si bien que les lames, se brisant, volèrent en 1000 éclats, tandis que les assassins restaient, le manche des couteaux en main, à se regarder l'un l'autre en se consultant.
« J'ai trouvé !» dit le plus grand. « Il faut le pendre. Pendons-le. Pendons-le. »
répéta l'autre. Ce ne fut pas long. On lui attacha les mains derrière le dos, on lui passa autour du cou un nœud coulant, puis on le pendit à une grosse branche de chêne. Les assassins s'assirent sur l'herbe en attendant que le pantin fît sa dernière gambade. Mais 3 heures après, le pantin avait toujours les yeux grands ouverts, la bouche close et gambadait plus que jamais. Las d'attendre, les assassins dirent à Pinocchio en éclatant de rire. À demain. Et quand nous reviendrons, nous espérons que tu nous feras la politesse d'être mort et d'avoir la bouche ouverte. Là-dessus, il s'en allait. Pendant ce temps, un vent impétueux s'était levé du côté de l'ouest et, soufflant avec rage, balançait en tous sens le malheureux pantin et l'agitait bruyamment comme le battant d'une cloche pour sonner une fête. Ce balancement causait à Pinocchio des convulsions terribles, tandis que le nœud coulant serrait de plus en plus sa gorge au point de lui couper la respiration. Peu à peu, ses yeux s'obscurcirent, mais tandis qu'il sentait la mort approcher, il ne désespérait pas de voir d'un instant à l'autre survenir quelques mains charitables pour lui apporter le salut. Lorsqu'après une longue attente, il constata que personne n'approchait, l'image de son pauvre papa lui revint à l'esprit et il balbutia presque mourant.
« Oh, mon papa, si tu étais ici !»
Le souffle lui manqua pour continuer. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, étira ses jambes, fit une violente secousse et resta comme engourdi. Chapitre 16. La belle jeune fille aux cheveux bleus fait recueillir Pinocchio, le met au lit, appelle trois médecins pour savoir s'il est encore vivant. Tandis que le pauvre Pinocchio, pendu par les brigands à une branche de chêne, paraissait plus mort que vivant, la belle jeune fille aux cheveux bleus se mit de nouveau à sa fenêtre et fut émue de pitié à la vue de ce malheureux qui, suspendu par le cou, dansait la gigue au souffle du vent d'ouest. Elle frappa trois fois les mains l'une contre l'autre et appela trois fois. À ce signal, on entendit comme un grand bruit d'ailes qui volait avec une fougue impétueuse, et un énorme faucon vint se poser sur l'appui de la fenêtre. « Que demandez-vous, ma gracieuse fée ?» dit le faucon en inclinant la tête en guise de révérence. Il faut vous dire que la jeune fille aux cheveux bleus n'était pas autre chose qu'une très bonne fée qui, depuis plus de 1000 ans, habitait les environs de la forêt. « Vois-tu ce pantin qui est attaché ?» dit la fée, « et dont le corps se balance à la branche de ce grand chêne. »« Je le vois, » répondit le faucon. « Eh bien, vole là-bas immédiatement. Coupe avec ton bec le nœud qui le tient suspendu et étends délicatement le corps sur l'herbe au pied du chêne. » Le faucon repartit et 2 minutes après revint en disant « J'ai fait ce que vous m'avez commandé. » « Et comment est-il ? » demanda la fée. « Mort ou vivant ?» À le voir, il semble mort. Mais il ne doit pas l'être tout à fait, car à peine ai-je détaché le nœud coulant qui lui serrait la gorge, qu'il a fait un soupir et balbutié tout bas. Maintenant, je me sens mieux. Alors, la bonne fée frappa dans ses mains et appela deux fois, et l'on vit apparaître un magnifique chien barbet, un barbet c'est une sorte de chien, qui se tenait droit sur ses pattes de derrière, tout comme un homme. Le barbet était vêtu comme un cocher en livrée de gala. Il avait sur la tête un chapeau à 3 cornes, galonné d'or, posé sur une perruque blonde faite de boucles qui lui descendait jusqu'au cou. Il portait une redingote couleur chocolat, avec des boutons de diamant et deux grandes poches pour y mettre les os dont lui faisait cadeau sa maîtresse pour son déjeuner. Sa culotte courte était de velours cramoisi. Il était chaussé de bas de soie et de souliers décolletés. Lorsqu'il pleuvait, il abritait sa queue dans un magnifique fourreau de velours bleu. « Viens ici, mon brave Médor, » dit la fée au barbet. « Attelle vite le plus beau de mes carrosses et va dans la forêt. Quand tu seras arrivé près du grand chêne, tu trouveras étendu sur l'herbe un pauvre pantin, à moitié mort. Ramasse-le et dépose-le, mais avec précaution, sur les coussins de la voiture, puis transporte-le ici. Tu as bien compris ?» Le barbet, pour montrer qu'il avait bien compris, remua 3 ou 4 fois le fourreau de velours bleu qui abritait sa queue et partit, rapide comme un coursier. Peu de temps après, on vit sortir de la remise un beau carrosse tout orné de plumes de canard et tapissé de drap crème. Le carrosse était tiré par 100 couples de souris blanches et le barbet, assis sur le siège, faisait claquer le fouet de droite et de gauche comme un cocher qui craint d'être en retard. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que la voiture revenait. La fée, qui attendait sur le pas de la porte, prit dans ses bras l'infortuné Pinocchio et le porta dans une petite chambre aux cloisons de nacre. Elle fit venir aussi les médecins les plus renommés du voisinage. Les médecins arrivèrent vite, l'un après l'autre. Ce fut d'abord le corbeau, puis la chouette, et enfin le grillon parlant. Messieurs, dit la fée, en s'adressant aux 3 médecins réunis autour du lit de Pinocchio, je voudrais savoir si ce malheureux pantin est mort ou vivant. À cette demande, le corbeau s'avançant le premier, tâta le pouls de Pinocchio, puis son nez, puis son petit doigt de pied, et quand il l'eut bien palpé, il prononça sentencieusement ces paroles. « Croix, croix ! À mon avis, le pantin est bel et bien mort. Mais, si par hasard il n'était pas mort, cela signifierait alors qu'il est encore vivant. Je regrette, dit la chouette, d'être obligé de contredire le corbeau, mon illustre confrère et ami. Pour moi, au contraire, le pantin est toujours vivant. Mais si par hasard il n'était pas vivant, cela signifierait alors qu'il est vraiment mort. Et vous, vous ne dites rien ? Demanda la fée au grillon parlant. Cri, 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 dit le grillon. Je dis que lorsqu'un médecin prudent ne sait pas quoi dire, il fait mieux de se taire. Du reste, la figure de ce pantin n'est pas nouvelle pour moi. Je le connais depuis longtemps. Pinocchio, qui jusque-là était resté immobile comme un morceau de bois, fut pris d'un tremblement convulsif qui remua tout lui. Ce pantin-là, poursuivit le grillon parlant, est un fripon invétéré. Pinocchio ouvrit un œil et le referma aussitôt. « C'est un vilain gamin, un vagabond !» Pinocchio se cacha la figure sous ses bras. « Ce pantin-là est un fils désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre père. » À ces mots, On entendit dans la chambre le bruit de pleurs et de sanglots étouffés. Imaginez la stupéfaction de tous lorsqu'on constata, en levant le drap, que c'était Pinocchio qui pleurait.
Croix, croix.
Quand le mort pleure, dit solennellement le corbeau, c'est qu'il est en voie de guérison. Je regrette d'avoir encore à contredire mon illustre confrère et ami, ajouta la chouette, mais à mon avis, quand le mort pleure, c'est qu'il n'a pas envie de mourir. Chapitre 17. Pinocchio mange le sucre, mais ne veut pas se faire purger. Pourtant, quand il voit arriver les croque-morts qui viennent le chercher, il consent à avaler son remède. Puis il ment, et comme punition, son nez s'allonge. Dès que les médecins furent partis, la fée s'approcha de Pinocchio, lui toucha le front et constata qu'il avait une fièvre violente. Elle se mit aussitôt à dissoudre une pincée d'une poudre blanche dans un demi-verre d'eau qu'elle tendit à Pinocchio en lui disant avec bonté « Bois, et tu seras bientôt guéri. » Pinocchio examina le verre, tordit un peu la bouche et demanda d'une voix larmoyante « Est-ce que c'est doux ou amer ?»« C'est amer, mais ça te fera du bien. »
« Si c'est amer, j'en veux pas. »«
Obéis-moi et bois vite. »«
Je n'aime pas ce qui est amer. »«
Bois vite et quand tu auras bu, je te donnerai un morceau de sucre pour te rendre la bouche meilleure. »«
Où est ce morceau de sucre ?» demanda Pinocchio.
« Le voici. » dit la fée en le retirant d'un sucrier d'or.
« Je veux d'abord le sucre, après je boirai cette potion amère. »«
Tu me le promets ?»«
Oui. »
La fée donna à Pinocchio le morceau de sucre, et Pinocchio, après l'avoir croqué et avalé rapidement, dit en se passant la langue sur les lèvres. « C'est bien bon le sucre. » Et même... si c'était un médicament, j'en prendrais bien tous les jours. Maintenant, dit la fée, tiens ta promesse et bois cette petite gorgée d'eau qui te rendra la santé. Pinocchio prit de mauvaise grâce le verre dans sa main et y plongea la pointe de son nez. Puis il l'approcha de sa bouche, y replongea la pointe de son nez et dit enfin
« C'est trop amer, trop amer. » « Je ne peux pas la boire !»«
Comment peux-tu dire ça? Tu ne l'as même pas goûté. »«
Je le suppose. Je le sens rien qu'à l'odeur. Je veux encore un autre morceau de sucre et aussitôt après je boirai la potion. »
Alors la fée, avec toute la patience d'une bonne mère, lui mit dans la bouche un autre petit morceau de sucre et lui tendit de nouveau le verre.
« Mais je ne peux pas la boire !» dit Pinocchio en faisant de nouvelles grimaces.
« Pourquoi ?»«
Parce que je suis gêné par cet édredon qui est sur mes pieds. »
La fée enleva l'édredon.
« C'est inutile ! Même comme ça, je ne peux pas la boire !»«
Qu'est-ce qui te gêne encore ?»
La porte de la chambre qui est entrouverte.
La fée alla fermer la porte de la chambre.
Eh bien non, cria Pinocchio dans une crise de sanglots. Cette potion amère, je ne la boirai pas. Non, non, non et non.
Mon enfant, tu t'en repentiras.
Tant pis.
La fièvre te fera mourir en quelques heures.
Tant pis.
Tu n'as donc pas peur de la mort?
Non. J'aime mieux mourir que de boire cette mauvaise médecine.
À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit toute grande et livra passage à quatre petits lapins, noirs comme de l'encre, qui portaient sur leurs épaules un petit cercueil.
« Que voulez-vous ? » s'écria Pinocchio en se redressant épouvanté.
« Nous venons de chercher, dit le plus gros des lapins.
« Me chercher ? Je ne suis pas encore mort. »«
Pas encore, non, mais il te reste bien peu de minutes à vivre, puisque tu as refusé de boire le médicament qui t'aurait guéri de la fièvre. »«
Oh, ma fée, ma bonne fée, s'écria Pinocchio, donnez-moi vite ce verre. Dépêchez-vous de grâce, je ne veux pas mourir. Non, non, je ne veux pas mourir. »
Il prit le verre à deux mains et le vida d'un seul trait.
Allons, dirent les lapins, pour cette fois nous avons fait le voyage pour rien.
Et ils se retirèrent en emportant le petit cercueil sur leurs épaules et en grommelant entre leurs dents. Peu de temps après, Pinocchio sautait de son lit, bel et bien guéri. Sachez en effet que les pantins de bois qui tombent vite malades ont aussi le privilège d'être vite guéris. La fée, en voyant courir et folâtrer dans la chambre Pinocchio, alerte et gai comme un poussin, lui dit « Tu vois bien que ma médecine t'a guéri.
Mieux guéri, elle m'a ressuscité.
Alors pourquoi t'être fait tant prier pour la vallée ?
Ben, c'est que nous autres, les enfants, nous sommes tous les mêmes. Les remèdes nous font plus peur que le mal. »
« C'est honteux, dit la fée. Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament, pris à temps, peut les sauver d'une grave maladie, et même de la mort.
Oh, mais une autre fois, je ne me ferai pas prier. Je me rappellerai ces vilains lapins noirs qui portaient mon cercueil sur leurs épaules, et alors je prendrai vite leur remède, et hop !
Maintenant, viens un peu près de moi, et raconte-moi comment il se fait que tu es tombé entre les mains des brigands, demanda la fée.
Mangefeu, le directeur du théâtre des marionnettes, dit Pinocchio, m'avait donné 5 écus d'or en me disant « porte-les à ton papa ». Or moi, en rentrant à la maison, je rencontrais sur ma route le renard et le chat, deux bonnes personnes, qui me dirent « veux-tu changer ces 5 écus en 1000 et 2000 écus ? Viens avec nous et nous te conduirons au champ des miracles ». Je répondis « allons ». Et eux me dirent en route « arrêtons-nous à l'auberge de l'écrevisse rouge ». Nous repartirons après minuit. Quand je me suis réveillé, ils n'étaient plus là. Ils étaient partis. Alors je me suis mis à cheminer dans la nuit, qui était une obscurité impénétrable. Et je rencontrai sur ma route les deux brigands, la tête emmitouflée dans des sacs à charbon.
« Sors les 4 écus qui te restent !» me dirent-ils.
Je répondis « je n'ai rien, car j'avais caché mes écus dans ma bouche. » Un des brigands essaya de me mettre la main dans ma bouche, mais d'un coup de dent, je coupai sa main et la crachai. Et au lieu d'une main, c'était une patte de chat. Les brigands se mirent alors à courir après moi, et on courut, 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 et on courut, 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 courut. Mais ils me rattrapèrent et m'attachèrent par le cou à un arbre de la forêt en me disant « Demain, nous reviendrons ici. » Alors tu seras mort, ta bouche sera ouverte et nous t'enlèverons les écus d'or que tu as cachés sous ta langue.
Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette. Pinocchio de Collodi, page 106. Prends la cassette suivante.